Nous retrouvons à présent l'émission Parcours, présentée par Virginia Crespo.
Bonjour, vous êtes à l'écoute de Parcours, une émission de Canal Académie qui vous propose aujourd'hui un parcours de 60 minutes en compagnie d'André Damien de l'Académie des sciences morales et politiques. André Damien, bonjour.
Bonjour.
Pour retracer votre carrière, je dirais que tout a commencé avec un diplôme de l'Institut de criminologie de Paris. Ensuite, vous avez été successivement, à partir de 1953, avocat au barreau de Versailles, avocat honoraire à partir de 1981, bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles, c'était de 69 à 70, puis de 73 à 76, président d'honneur de la conférence des bâtonniers et enfin conseiller d'État. Parallèlement, André Damien, vous avez exercé des fonctions politiques en tant que maire de Versailles, c'était de 77 à 95, donc 18 ans, conseiller général des Yvelines pendant 19 ans, de 1979 à 1998. Vous avez été conseiller chargé des cultes auprès de Charles Pasqua, lui-même ministre de l'Intérieur à cette époque, donc de 1993 à 1995, puis de Jean-Louis Debray dans la période de 95 à 97. Proclamé député des Yvelines, vous avez siégé à l'Assemblée nationale jusqu'en 1997. Et vous êtes par ailleurs membre du Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur et également lieutenant général de l'ordre du Saint-Sépulcre. Alors, deux mots sur cet ordre du Saint-Sépulcre.
Eh bien, l'ordre du Saint-Sépulcre est un ordre de chevalerie qui a existé après les croisades. La mission de ces ordres était de délivrer les lieux saints ou de maintenir les communications entre l'Europe et les lieux saints, malgré la présence des Turcs, qui d'ailleurs se laissaient faire contre argent, etc., il y a toujours eu des relations. Et l'ordre du Saint-Sépulcre était chargé de veiller sur les chrétiens de Terre Sainte. Alors il a aujourd'hui plusieurs 800 membres en France, mais ces membres ne sont pas seulement consacrés à faire la quête pour la Terre Sainte ou pour s'y transporter, ils sont faits également pour avoir une formation spirituelle, pas seulement sur la Terre Sainte, parce que en réalité l'esprit de conquête il existe toujours, aussi bien la conquête autrefois militaire qu'aujourd'hui la conquête sur soi-même, sur ses vices et ses défauts, et c'est pourquoi il y a une formation spirituelle et théologique, puisque c'est un ordre chrétien, de façon à ce que nous ne soyons pas des démunis sur le plan théologique. Voilà pourquoi il y a toute une formation spirituelle qui est prodiguée par l'ordre du Saint-Sépulcre.
André Damien, vous avez écrit plusieurs ouvrages autour de deux sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur, votre profession d'avocat, et puis la ville de Versailles. Alors, première question, l'énoncé de toutes ces responsabilités, lues au cours de votre parcours il y a un instant. Quel est votre sentiment premier ? Nostalgie ? Grande satisfaction, réserve, qui vous viennent par rapport aux difficultés rencontrées pendant l'exercice de toute une vie, l'exercice de vos fonctions, si c'était à refaire, ces choix, alors, ces directions.
Je crois que quand on se donne à quelque chose, il faut se donner jusqu'au cou, à plein, mais quand on en sort, à des dates que je me suis toujours fixées d'avance, car je n'ai jamais hésité sur un moment de départ, eh bien on est quand même soulagé et content, non pas de ce qu'on a fait, ni de ce qu'on n'a pas fait, mais de la quiétude ou de la tranquillité qui vient. Car toutes ces responsabilités finissent par être angoissantes et stressantes. C'est pourquoi j'avoue avoir quitté, sans amertume aucune, et avec une certaine joie, les différentes responsabilités qui m'ont été confiées.
Alors nous reviendrons sur cette passion par rapport à votre métier d'avocat qui vous a animé tout au long de ce parcours. Revenons à la ville de Versailles que vous évoquez dans plusieurs de vos ouvrages. Vous êtes né à Versailles, André Damien ?
Pas du tout. D'ailleurs, finalement, c'est à se demander s'il y a vraiment des Versaillais nés à Versailles. Versailles est une ville de garnison, une ville de fonctionnaires, c'était tout au moins autrefois. Et la plupart des Versaillais d'aujourd'hui sont nés ailleurs et sont venus par le hasard des fonctions. Moi, j'ai suivi mon père, qui était directeur des domaines de Seine-et-Oise, à l'époque où la Seine-et-Oise existait, et j'ai donc vécu à partir de 15 ans à Versailles. Ce qui fait que je me suis tout naturellement inscrit au barreau de Versailles, j'y ai pris des responsabilités culturelles, conférencières, politiques, spirituelles, Et puis maintenant, eh bien, je me suis retiré de tout ça, mais en restant toujours attentif à ce qui se fait à Versailles.
Votre ville de naissance, c'est Paris ?
Paris, Paris.
Et quel souvenir avez-vous de cette enfance parisienne ?
Alors, je suis parti très tôt, puisque j'ai quitté Paris à l'âge de 4 ans pour gagner un trou perdu qui s'appelle Chalon-sur-Marne, Chalon-Champagne aujourd'hui, ce qui m'a initié à une petite ville de province, un peu du genre de celle que évoque Anatole France dans l'histoire contemporaine. Et ensuite, mon père a été nommé à Marseille, et là, j'ai découvert une ville que j'aime profondément et à laquelle je suis très attaché. Le Marseille d'autrefois, qui n'existe plus beaucoup, mais qui était quand même une ville superbe, que Pagnol a décrit sans exagération manifeste.
Vous étiez enfant unique ou entouré de frères
non,
et sœurs ?
Non, enfant unique, ce qui est bien irritant quand on est enfant et bien pratique quand on est adulte.
Et quand je prononce le mot enfance, quels sont les mots-clés qui vous viennent instinctivement à l'esprit concernant votre enfance ?
Une sorte de douce quiétude avec ma mère, une tranquillité, un apaisement, voilà, enfin, l'œuf, le cocon familial, l'œuf, le thème de l'œuf si cher à Freud, mais également à Jules Verne, puisque la plupart des romans de Jules Verne, c'est l'état d'œuf, et notamment de la Terre à la Lune. Il a cette passion qui a fait travailler les psychanalystes sur l'œuf dans la symbolique de Jules Verne.
Alors, pendant cette période passée dans cet œuf, cette période de construction, quels sont les personnages, soit réels autour de vous, ou imaginaires dans les livres que vous avez découverts à cette époque, qui vous ont aidé à vous construire ?
Alors, je pense que c'est surtout les lectures. Et il y a eu plusieurs tas de lectures, mais qui correspondaient à des âges, mais qui correspondaient à des amours différentes et, en tout cas, totales. Ça a été la comtesse de Ségur, d'abord, qui m'a beaucoup aidé, apporté. Le premier livre que j'ai lu, c'est Les Mémoires d'un âne. Ensuite, il y a eu la période Jules Verne, qui a été extrêmement animée, constructive, avec le plus beau Jules Verne, qui est L'île mystérieuse, dans lequel on refait un monde à partir de rien. Ensuite, il y a la période balzacienne, et Balzac étant un monde à lui tout seul, on y découvre tout ce qu'on aime, tout ce qu'on doit craindre. Et puis, il y a la période proustienne. Et puis, la grande période, c'est la période francienne, c'est-à-dire Anatole France, qui, pour moi, est un des plus grands auteurs français, un peu oublié aujourd'hui. C'est pas le romancier que j'aime, c'est l'histoire contemporaine qui est le plus admirable roman qu'on ait pu écrire. Bon, le Lys rouge, tout ça, c'est un peu vieilli aujourd'hui, ça sent ces histoires qu'il était obligé de faire pour plaire à Madame de Caillavé.
Et quel genre de petit garçon étiez-vous ? Chahuteur, turbulent, non, ou observateur, non. Calme ?
Calme, un peu taciturne. Et puis observateur, très observateur.
Recherchant la compagnie des autres ou l'évitant ?
Non, recherchant la compagnie des autres. Je ne peux pas vivre sans les autres. Et c'est pourquoi j'étais heureux au régiment, c'est que j'avais des autres.
La famille, cette notion de famille, représente-t-elle quelque chose d'important pour vous, de fondamental ou non ? Et si oui ou sinon, pourquoi ?
C'est très important, la famille, parce que c'est un, je ne dirais pas l'abominable mot de gîte, famille, foyer, clos, je vous hais. Parce que justement, famille, foyer, clos, je vous aime parce que vous m'avez protégé. Mais j'ai toujours eu besoin de cet entourage qui est à la fois protecteur et qui permet d'exercer une influence. C'est pourquoi j'ai toujours eu des amis, des groupes amicaux, et qui, avec leur caractère, en respectant, en tentant de respecter leur personnalité, sont des personnes qui m'aident à m'épanouir totalement. Car sinon, je m'ennuierais singulièrement dans la solitude.
Vous êtes né donc le 10 juillet 1930.
Sous signe du cancer.
Et cette période de la guerre, comment l'avez-vous vécue ?
Eh bien, j'ai vécu comme une espèce d'extraordinaire aventure. Elle était compliquée, elle était délicate. On a eu les bombardements, on est allé à la campagne, on a eu les bombardements américains. Un matin, en se réveillant, pendant que la radio chantait des chants de victoire, on a vu sortir de la haie qui nous séparait la propriété voisine, trois Allemands. que ma mère a fait prisonnier, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils avaient envie de se rendre, parce que sinon il aurait suffi d'un retour de main pour qu'ils récupèrent leurs armes. Et c'est moi qui les ai accompagnés, car ils voulaient se rendre à l'armée régulière et pas aux terroristes. Terroristes, c'était le nom qu'ils donnaient au FFI. Et c'est ainsi que j'ai été initié à la guerre. Mon père faisait beaucoup de résistance. Et je sentais une inquiétude diffuse à propos d'un certain nombre de choses.
Alors, les études, vous n'étiez pas un garçon très studieux?
Non, j'étais très, très fantaisie, je faisais ce que j'aimais. Et ce n'est pas le meilleur moyen de faire des examens, de les passer.
Vos matières préférées, vos disciplines préférées?
C'était l'histoire et le français, et le latin et le grec. Mais je dois dire que j'ai réussi, par des professeurs exceptionnels du lycée Thiers de Marseille, qui était d'ailleurs le lycée où M. Pommeau, mon confrère, avait fait ses études. Et c'est ce que j'ai appris en faisant ma visite d'académicien, de futur académicien, de candidat. Et j'ai eu les mêmes professeurs que lui, avec 30 ans de différence. Ils avaient eu tout jeune, moi j'ai eu tout vieux. Et c'est des professeurs qui m'ont initié à la culture, et d'autres, avec dévouement, m'ont aidé à passer un bac qui, sans cela, serait resté problématique.
Alors justement, par rapport à cet entourage de professeurs ou par rapport à votre entourage familial, est-ce qu'il y a une idée, une phrase, un concept qui vous ont été transmis pendant cette période-là de construction par votre mère, votre père, un oncle, une tante, une grand-mère, qui vous a aidé ensuite dans votre parcours d'homme?
Oui, c'est d'une part le sérieux dans la vie, dans le travail. L'amour des belles choses. Mon père était très collectionneur, moi je le suis à un point pathologique. Et puis, admirer les maîtres que j'ai eus et qui étaient des personnalités qui, sur le plan de la culture, étaient extraordinaires. Pour arriver à faire goûter un gamin de 15 ans, Britannicus et tout Racine, c'est prodigieux. Il y avait des professeurs, à l'époque, je pense qu'ils existent toujours, qui avaient l'art d'enseigner cette espèce de la beauté qu'on ne perçoit pas directement.
La transmission passe par le relationnel.
Ah oui, toujours. Le livre peut y aider, mais la transmission orale, si je puis dire, est quelque chose de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus formateur. Le livre, parce qu'on a trop tendance à passer les pages au moment où le récit devient ennuyeux.
Alors, vous nous avez confié, il y a un instant, être un collectionneur émérite. Alors, vous collectionnez quoi, André Damien?
Alors, les meubles qui me plaisent et qui ont une certaine beauté, et un environnement extérieur, les tableaux, etc. Mais j'ai une collection très particulière, qui est les décorations, c'est-à-dire les objets qui ont été donnés comme marque d'honneur, jadis ou naguère, à des personnalités qui ont servi l'État, la France et le pays. Et ça s'appelle, ça a un nom, qui passera peut-être un jour à l'Académie française, c'est la phaléristique, avec un P. Mais ils en sont à la lettre C, donc on est encore loin du P. La phaléristique, c'est l'art de la collection de décorations, parce que quand vous dites le mot décoration, c'est aussi bien la décoration d'une pièce, d'un appartement, le choix des tentures ou des couleurs, que les décorations qui se portent au bout d'un ruban et qui évoquent. Et elles sont ces décorations belles, souvent, rares, parfois, et touchantes toujours, parce qu'elles évoquent un événement auquel quelqu'un a été mêlé. La campagne de Chine, la campagne de Madagascar, la campagne du Rif, les guerres de l'Empire, voilà, les croix de guerre. Moi, j'avais un ami, Yves Péchon, qui était commissaire-priseur à Paris et qui m'a initié en large partie à la collection de décorations. Et comme il était commissaire-priseur, les commissionnaires lui apportaient toutes les croix de guerre qu'il achetait. Il ne savait pas qu'en faire, il en avait des paquets. Pourquoi? Parce qu'il me disait, elles ont été le symbole de tant de gloire et de dévouement que je ne peux pas les laisser passer à l'encan. Donc je les rachète à 5 francs peut-être, mais je les rachète parce qu'elles symbolisent quelque chose.
Décorer un homme, une femme, c'est reconnaître ses mérites.
Ah oui. Alors, ce n'est pas des mérites à vie. Hein. Des gens qui ont été décorés peuvent faillir à un certain moment donné. Ce n'est pas un brevet de sainteté. D'ailleurs, on ne canonise que les saints morts. Et donc, les décorations, c'est la même chose. C'est pourquoi il y a une discipline à la Légion d'honneur. Mais il y a d'abord la recherche de l'honneur Et c'est le critère sur lequel on doit toujours se placer quand on parle de décoration.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio-Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques, les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année. Canal Académie, la première radio académique francophone au monde, leur donne la parole. Connectez-vous sur www.canalacademie.com et écoutez.
On retrouve Virginia Crespo.
André Damien, vous êtes donc devant les micros de l'émission Parcours dans les programmes de Canal Académie, la radio de l'Académie des sciences morales et politiques. André Damien, aimez-vous la nature? Êtes-vous un académicien des villes ou des champs?
Alors, j'aimerais la nature si je n'étais pas, j'allais dire, si douillé à me lancer à son assaut. J'aime la nature, j'aime les beaux paysages. J'ai découvert des natures fabuleuses, aussi bien la mer Morte que Palmyre, que la Russie du Nord, où je suis le premier. Enfin, je suis le premier. Je suis dans le premier avion qui a quitté Paris pour Saint-Pétersbourg. Jusqu'avant, c'était Leningrad. Et le premier que j'ai pris pour me jumeler avec Saint-Pétersbourg était un avion Saint-Pétersbourg. Donc, je crois que j'ai connu un peu la Russie, pas trop mal. J'ai connu Poutine à l'époque, qui était le secrétaire particulier d'Anatoly Sobchak, qui était le maire de Saint-Pétersbourg, qui m'a reçu fraternellement. Et sa femme, qui était une femme, qui est toujours d'ailleurs une femme admirable, d'intelligence, d'allure et de culture. Donc, c'est la nature que j'aime. Alors vous me direz que c'est pas la vraie nature. Je n'aime pas les sublimes horreurs qui attirent les romantiques, parce que c'est trop loin pour y aller, et que j'aime pas marcher très loin pour aller voir quelque chose. Et si vous m'y conduisez, je sais aimer.
Quelle est la place de l'homme dans cet univers, dans ce cosmos, dans ce
Alors,
monde?
Il est le roi de la nature. C'est Dieu qui lui a assigné cette fonction. Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. C'est cette espèce de pyramide que saint Paul décrit, et donc l'homme est le roi de la nature. Mais comme tous les rois, il peut faire des erreurs. Et l'homme, au lieu de rechercher, d'enrichir, de recueillir cette nature, peut en mésuser et en faire quelque chose d'abominable. C'est assez fréquent, on le voit aujourd'hui beaucoup. On coupe tout, on abîme tout. Et puis, il faut dire que notre génération est une génération qui a perdu le goût. Il n'y a qu'à voir toutes les cochonneries qu'on a pu construire en matière urbaine. N'est-ce pas ? À Versailles, j'ai essayé de sauver. Il était tard. Mais la destruction de Versailles par mes prédécesseurs, ou plus exactement par mon prédécesseur, qui a duré 30 ans et qui était une destruction effroyable. Les plus beaux monuments de Versailles étaient menacés. Et cela hérissait peu de gens, d'ailleurs, parce que, après tout, on s'y faisait. C'est une époque où on ne respectait pas les vieux quartiers. On a démoli entièrement un vieux quartier de Versailles, qui était la petite place, qui a été démoli systématiquement. Et on aurait pu faire des opérations immobilières intéressantes. On a fait une espèce de caserne abominable. Là. Donc ça, je pense que c'est assez récent. Ça correspond. J'ai cru un instant, parce que je dois être vaniteux, que c'était moi qui avais initié ça. Non, c'est un mouvement qu'on a retrouvé à peu près partout au même moment, en 77. Autour de 77, où les gens se sont brusquement commencé à s'intéresser à leur environnement, à leur square, à leurs immeubles anciens, à leur quartier. C'est l'époque où on découvre le Marais. Le Marais est le plus beau quartier de Paris. Bon, on ne l'a pas découvert il y a très longtemps. Autrefois, c'était un quartier où on osait à peine habiter. De petits artisans qui respectaient les lieux où ils habitaient, d'ailleurs, parce que, enfin, tout en les adaptant à leurs besoins.
Prise de conscience.
Oui, prise de conscience. 75-80.
J'ai dit tout à l'heure que vous aviez commencé votre parcours par un diplôme de l'Institut de criminologie de Paris. Oui. Parlez-nous de ce diplôme.
Alors, c'est un diplôme en plus, si je puis dire, parce que ça n'a pas une utilisation directe, mais c'est extrêmement intéressant parce que j'ai découvert des professeurs éminents, notamment des médecins légistes, des médecins, des psychologues, des psychiatres, qui m'ont appris à mieux découvrir les difficultés de l'âme humaine et particulièrement des délinquants. Parce que le délinquant est un problème permanent. Parce que quelqu'un se fasse prendre une fois, bon, ça peut arriver à tout le monde. La tentation est grande et la police efficace. Mais quand on récidive d'une manière permanente, alors que les protestations de repentir ou de remords étaient sincères au moment où elles ont été prononcées, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut trouver une explication qui ne peut être qu'une explication psychologique. Alors, on ne va pas très loin avec ça, parce qu'on irait vers l'indulgence permanente. Notamment, cette indulgence n'est pas efficace sur le plan de la défense sociale. Alors, les Français ont fait des efforts. Les Belges avaient fait plus d'efforts que nous, avec le professeur de greffe, qui était un grand criminologue, un des plus grands, et qui a écrit un livre assez facile. Il a fait un traité de criminologie, mais il a écrit « Âme criminelle ». Et c'est ce genre de personnes qui m'ont ouvert sur des perspectives criminologiques différentes de celles de l'étudiant moyen.
Pourquoi avoir choisi cette voie, celle du droit ?
Un peu le hasard, parce que je savais rien faire d'autre. J'étais pas matheux. Et puis, j'avais peur du sang, donc je ne voulais pas être étudiant en médecine, encore que j'en ai vu à l'Institut de criminologie, puisqu'on assiste à des autopsies nombreuses, là-bas, à la morgue, à l'Institut médico-légal. Et puis, je dois dire, parce que j'avais déjà ce besoin de la défense des autres. J'avais assisté, par hasard, parce que ça se passait à Versailles, au procès de la Haute Cour de justice, et notamment au procès des amiraux. Et j'avais été indigné de la mauvaise foi de l'accusation, des jurés qui étaient complètement pris par la passion. Et ça m'avait donné une espèce d'envie de justice, comme on a au cinéma, quand on voit le bon cow-boy poursuivi par le méchant assassin. Et donc j'ai puisé là, je crois, sur le terrain, ma vocation d'avocat, et il ne me serait jamais venu à l'idée de devenir un magistrat. Je l'ai été, mais c'est de l'ordre administratif, ça n'a rien à voir. Mais j'avais ce besoin de défendre les faibles, les innocents, ceux qui sont travaillés dans des procédures abusives.
André Damien, au micro de Canal Académie, je vous propose maintenant de faire lecture de votre profession de foi. Voici les mots que vous avez écrits vous-même concernant ce métier d'avocat. La profession d'avocat est la profession des contradictions. Et par là même, elle aboutit à créer des hommes déchirés entre des choix contradictoires. Elle donne certes des satisfactions intellectuelles, de liberté totale, la joie de la controverse, les triomphes du théâtre, un contact cœur à cœur avec des hommes, contact que connaissent seuls, encore avec l'avocat, le prêtre et le médecin, et pour combien de temps encore pour ces deux dernières catégories. Mais elle est une profession qui laisse insatisfait et en déséquilibre permanent. Elle entretient chez celui qui l'embrasse une inquiétude qui est à la fois l'inquiétude de l'acteur, l'inquiétude d'Antigone, faible et menacée par le pouvoir, l'inquiétude du lendemain, car une profession libérale n'assure jamais la sécurité nécessaire pour obtenir la paix du cœur dont vous nous parliez tout à l'heure. C'est une profession instable, difficile, dans laquelle les défaites sont ressenties plus cruellement que dans d'autres, car elles s'abattent sur des hommes, sur la défense desquels l'avocat s'est voué corps et âme. L'échec, la punition excessive sont ressentis par l'avocat, comme la mort par le médecin. C'est le doute permanent sur notre action et sur notre raison d'être. On comprend votre satisfaction d'être libéré de ce poids.
Je dirais, je vais avoir l'air prétentieux et vaniteux, que je suis assez fier de ce texte, parce qu'il résume bien et il est tout à fait dans la lignée d'un admirable livre que vient de publier mon confrère Jean-Denis Bredin, qui s'appelle « Mot et pas perdu » à propos de sa profession. Et je trouve que ce texte, et c'est peut-être prétentieux de ma part, est digne de lui.
Alors vous parlez d'un contact cœur à cœur avec hommes. C'est ce que vous avez recherché à partir d'une indignation dont vous nous parliez tout à l'heure. Insatisfait, en déséquilibre permanent, comment fait-on ? L'échec, la punition excessive sont ressentis, vous le disiez, très durement.
On souffre. Il m'est arrivé de ne pas, après l'arrestation d'un client que je pensais innocent ou tout au moins de bonne foi, il m'est arrivé de ne pas dormir d'une nuit. tellement j'étais tourmenté par ce qui lui était arrivé. Et à la limite, j'étais plus tourmenté que lui.
C'est le temps qui permet une certaine distanciation,
une
relativité.
Il faut en tout cas, de toute façon, une certaine distanciation. C'est comme le médecin. S'il est concerné trop par les cas qui lui sont apportés, il finit par craquer. Donc pour l'avocat, il faut arriver à une espèce de... Non, pas une cuirasse, hein, on n'y arrive jamais. On est toujours sans armure. Mais à une certaine distanciation entre la personnalité du client et la sienne propre. Sinon, la vie ne serait pas supportable. On étranglerait les magistrats. Avant, pendant ou après.
Mais les souvenirs sont là.
Ah oui, oui.
Et vous êtes passé par des moments difficiles.
Ah oui. Avec des envies d'étrangler certains juges. Mais je ne veux pas vous raconter ma vie judiciaire. Brelin a si bien raconté la sienne dans son très beau livre que j'ai tiré, il est paru il y a quelques jours, hein, et que vous avez tout le nécessaire dans ce très beau livre. Mais il m'est arrivé des aventures extravagantes, notamment au retour des pieds noirs d'Algérie. Les affaires étaient fragmentées parce qu'on les avait condamnées par contumace. Et on les arrêtait au fur et à mesure qu'on les trouvait. Et ils passaient donc devant des cours d'assises différentes. L'influence d'un président des cours d'assises est hallucinante. Parce qu'il y avait les bons et les mauvais, les teigneux. Dans la même affaire, pour les mêmes faits, on pouvait avoir l'acquittement, que j'avais en général, ou une condamnation à 5 ans ferme. Alors, j'ai réussi à plaider la jurisprudence, ce qui ne se fait pas en cour d'assises. On ne doit pas invoquer les précédents. Et là, grâce aux précédents, j'ai réussi à retourner les jurés.
André Damien, par rapport à la justice des hommes, y a-t-il une justice immanente ? Nous allons réfléchir à cette question pendant le temps d'écouter Sanctus, que vous avez souhaité nous faire écouter aujourd'hui. Sanctus est extrait de la messe solennelle de Sainte-Cécile, que nous devons au compositeur français Charles Gounod, né en 1818, mort en 1893, qui nous a laissé des opéras tels que Faust, Roméo-Juliette ou encore Mireille, ou la composition d'œuvres religieuses comme Mors et Vita. Sanctus est ici interprété magistralement par la soprano que vous avez choisie, Jessie Norman. venez donc d'écouter Sanctus de la messe solennelle de Sainte-Cécile, composée par le musicien français Charles Gounod, dans une interprétation de Jesse Norman. Il s'agissait du choix de l'invité de votre émission aujourd'hui, Parcours, sur Canal Académie, le choix d'André Damien, de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, André Damien, on a évoqué tout à l'heure l'échec rencontrés au cours de chacune de nos vies, de nos parcours, de nos trajectoires professionnelles. Et vous nous disiez à quel point l'échec en matière de justice, l'échec vécu par l'avocat qui s'est livré un véritable cœur à cœur avec son client, était pénible et difficile à vivre. L'échec peut-il être constructif par certaines de ses facettes ? Comment, d'autre part, arrivez-vous à vous ressourcer, à trouver l'énergie nécessaire pour continuer de transmettre des convictions ?
Alors, je crois qu'il y a deux sortes d'échecs. Il y a l'échec relatif et l'échec absolu. L'échec absolu, c'était celui qui existait avec la peine de mort, où là, il n'y avait plus de problème. Heureusement, grâce à Badinter, cette barbarie a disparu. D'aucuns l'ont regretté, je pense qu'ils n'ont pas assez réfléchi. Il y a aujourd'hui encore l'échec absolu quand quelqu'un est poursuivi et par exemple l'affaire de la Josacine ou quelque chose comme ça, dit « je suis innocent » et il est déclaré coupable. Donc là, c'est ressenti par l'avocat comme un échec absolu, malgré les procédures de révision qui peuvent être engagées, etc. L'échec relatif, c'est celui dans lequel vous n'avez pas gagné autant que vous l'auriez aimé. Ce sont les aléas du monde, on peut s'y faire. L'échec absolu, on ne s'y fait jamais. Mais alors, il faut trouver une forme d'espérance. C'est cette forme d'espérance qui vous permet de supporter cette profession. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours enseigné la déontologie des avocats. J'ai eu de nombreux élèves, ça a duré pendant près de 20 ans, à Paris 10 Nanterre, et je leur apprenais les règles de la profession qui permettaient de parler de tout, et de rien peut-être, et notamment de les entretenir de ses échecs et de ses espoirs.
Est-ce que des convictions spirituelles, une religion, vous ont été transmises ?
Oui, ça m'a été transmis, et puis ensuite c'est devenu un acquis. C'est-à-dire que j'ai reçu ça comme on suce le lait de sa mère, et puis ensuite c'est devenu ma chose personnelle. Il y a dans toute vie d'un croyant une conversion, c'est-à-dire un moment où il reprend dans son bagage, dans ses idées, dans sa nature profonde, des convictions qui lui ont été apprises maternellement ou par des maîtres, etc. Et j'avoue que maintenant j'essaye aussi mal que je peux de les porter en moi. C'est pourquoi le morceau que j'ai choisi était un morceau spirituel. Alors il n'est peut-être pas de très bon goût, en ce sens que Gounod n'est plus tellement apprécié de nos jours. C'est peut-être quelque chose, diraient les gens, de pompier. Je dois dire que Jesse Norman, que j'ai bien connu, puisque je l'ai fait venir à Versailles au festival à plusieurs reprises, et je lui ai fait chanter le Sanctus, me disait que c'était le morceau, non pas qu'elle préférait, mais qui était le meilleur pour sa voix. C'est-à-dire où toute sa voix se déployait avec toutes ses facettes. Et voilà. Elle avait une sorte de... C'était son morceau culte. Elle n'a pas dit le plus beau, hein, mais c'était celui qu'elle aimait interpréter. Elle était divine aussi en Negro Spirituals, et ça j'en ai fait chanter à plusieurs reprises. C'est une femme très courageuse en ce sens que, contre vent et marée, des jours de grand vent au château, elle arrivait à chanter, alors que c'est très mauvais pour la voix, etc. C'est une femme qui a une certaine audace.
André Damien, dans l'un de vos ouvrages, paru chez Des Clés de Brouwer, Le secret nécessaire, le préfacier de cet ouvrage, Jacques Durandeau, a écrit « Lorsqu'il parle avec la Samaritaine, Jésus sait ses secrets et le lui dit. La vérité est atteinte dans le secret, nous dit-il. Lorsque Nicomède, notable parmi les pharisiens, veut savoir à quoi s'en tenir sur Jésus, c'est de nuit dans le secret qu'il vient s'entretenir très longuement avec Jésus. Encore une fois, donc, ce secret, quand il parle à un lépreux, qu'il lui dit « garde-toi de rien dire à personne ». Le secret existe même dans les évangiles. Vous y avez consacré tout un livre, « Le secret nécessaire ». Le Christ prend en compte et respecte le secret de la conscience, nous dites-vous.
Je pense que le secret est une nécessité dans la vie. On ne peut pas vivre publiquement. Ou tout au moins, on voit ce que ça donne avec des acteurs dépressifs, à force d'être sous les caméras, les paparazzis, etc. On a besoin du secret, qui ne consiste pas à cacher des choses vilaines, mais simplement à cacher ce qui est la part propre de chacun. Et l'Église, dès le début, et la cité, ont compris qu'il y avait des parts de secret qui dépassaient la société. Et qu'on n'avait pas le droit d'investigation. Alors on le trouve dans le secret médical, qui est bien antérieur au christianisme, dans lequel le divin Asclépios, qui est le grand médecin, enseigne le secret médical, c'est-à-dire ce que tu as vu chez ton malade, tu dois le garder pour toi. Et donc c'est le premier secret est médical. Puis ensuite viennent les secrets de la conscience, c'est-à-dire qu'à partir du moment et surtout où on vient à la confession auriculaire, c'est-à-dire celle qui consiste à s'adresser uniquement à une personne déterminée et à un prêtre, il est évident qu'il a droit au secret de ce qui a été dit. La même chose chez l'avocat. Donc le médecin, le prêtre, l'avocat, et il y a d'autres secrets, sont des choses sacrées.
Vous parlez du secret des policiers, des banquiers, de l'informatique, le secret d'État, du journalisme.
Oui. Le secret du journalisme étant une chose très particulière, puisque ce n'est pas le secret des choses révélées, c'est le secret des sources. En ce sens que quand vous dites quelque chose à un journaliste, ou quand il l'apprend, c'est pour le dire. Ce n'est pas pour l'enterrer dans sa conscience. Mais il a droit au secret de ses sources. Et il est garanti maintenant un peu par la loi, mais il l'était par la pratique, en ce sens que le journaliste préférait être condamné en correctionnel à des peines d'ailleurs symboliques, payer le directeur. Mais il préférait être condamné que de révéler le secret de ses sources. Alors, il y a, à mon avis, un espèce de droit fondamental de l'homme à un certain secret. Mais ce secret est en train de disparaître rapidement et à grands pas. Parce que la société a pris une telle importance qu'on n'admet plus cette sorte de petit précaré, ce domaine individuel, cette petite plate-bande un peu fleur bleue dans laquelle on enfouit ses secrets. Donc de la même manière que les paparazzis poursuivent la vie privée de gens et avec vigueur, violence, pour l'exposer à tout le monde, à des lecteurs qui ont envie de découvrir qui est la bande qui est la maîtresse de qui, ce qui n'est pas dramatique, mais enfin, on a quand même droit à certains secrets de sa vie. Et il y a des secrets plus importants qui, dans une société normale, doivent être conservés. Or, l'État les supporte de plus en plus mal. C'est notamment devant le fisc, rien ne résiste. Le fisc a besoin de savoir. Et quand on oppose secret en disant « je ne peux pas vous donner ma liste de clients », le fisc dit « mais c'est très évident ce que vous faites là ». Ce qui fait que le secret médical, mais devant une épidémie, vous refuseriez de donner le nom de ceux que vous avez soignés, qui sont en train de la propager. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui une opposition entre le public et le privé. Et cette opposition se manifeste par la jurisprudence, les mentalités, la loi même, qui oblige maintenant à dénoncer un certain nombre de choses, et me paraît un signe de civilisation. Je comparais le secret à une réglette mobile sur un mètre, et dans lequel plus on se va d'un côté, plus c'est le public qui prend le dessus, plus on va de l'autre côté, plus c'est le privé. Et il faut que la réglette reste au milieu, parce que sinon, évidemment, si tout est secret, il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien. Mais quand plus rien n'est secret, c'est plus une société. Le vieil exemple de la résistance à la loi, le secret, c'est Antigone.
C'est une figure que vous aimez beaucoup à citer, à évoquer, Antigone.
Oui, parce que je pense que c'est un archétype, c'est-à-dire que c'est une fabrication par le génie grec d'une histoire qui vraisemblablement n'a jamais existé, mais qu'ils ont trouvé dans leur inconscient collectif et avec lequel ils ont fabriqué un type de résistance à la loi injuste qui surnage.
Oui, rappelons qu'Antigone, fils d'Œdipe, fut condamné à mort pour avoir, malgré la défense du roi Créon, enterré son frère Polynice. Voilà. Donc elle a transgressé
la loi de Créon.
Et très joliment, vous écrivez dans Le secret nécessaire paru chez Desclées de Brouwer, les nécessités du bien commun ne donnent pas tous les droits sur les hommes. Le monde humain n'est pas une fourmilière. Il y a la petite flamme d'Antigone qui montre que certains droits de l'homme sont supérieurs à ceux de la société où il vit et que cela justifie parfois que les lois et les règlements du droit positif soient transgressés.
Le roi, l'État, Créon, mais Créon existe toujours, hein, puisque c'est l'État, n'a pas le droit d'imposer des choses qui sont contre la loi naturelle, c'est-à-dire le droit de rendre un hommage à un être cher qui a disparu, même si sa mort paraissait nécessaire au tyran. Tyran, pas dans un mauvais sens. Tyran, c'est-à-dire au roi.
Liberté de conscience,
oui,
avant tout.
Avant tout.
Donc, vous écrivez qu'il a fallu le miracle d'Antigone, justement, pour faire cette démonstration.
Alors, j'ajoute, je crois que le miracle d'Antigone, c'est le miracle grec d'un pays dans lequel, dans le chaos politique, etc., on a posé des archétypes. Mais tout ça n'aurait rien valu s'il n'y a pas eu l'ordre romain, la force romaine qui est venue construire ça un peu comme ils construisaient leurs monuments avec ce bon ciment romain qui est si solide. Et puis tout ça n'aurait rien valu s'il n'y a pas eu le christianisme qui est venu s'insérer par rapport à ces deux notions antérieures et qui est venu apporter une notion de dignité de la personne humaine puisqu'elle est divinée, consortes, naturée, de la même nature que Dieu. L'homme est de la même nature que Dieu. Et par là même, il a droit à un respect particulier, ce qui fait que la torture, par exemple, est en aucun cas tolérée, car elle est une violation de la dignité de la personne humaine, et elle est une double violation. Elle est une violation de la part de celui qui ordonne la torture, mais elle est une violation de la part de celui qui torture. Parce que celui qui torture est marqué à vie par des souffrances qu'il a infligées à quelqu'un. Et on le voit maintenant dans les procès récents sur la torture, etc., des affaires qui ont défrayé la chronique, c'est qu'en réalité, la vraie victime, c'est pas tellement le torturé qui a souffert le martyr, qui est peut-être mort, mais qui, dont la dignité n'a été affectée que par l'obligation dans laquelle on l'a mis de révéler des choses qu'il ne voulait pas révéler, mais c'est celui qui a exercé la torture et qui a vu brusquement le sadisme s'insérer en lui. Or, le sadisme, il n'est pas loin dans l'homme. Hein. Donc, il ne faut pas développer ces espèces d'instincts mauvais qui termineraient par coller une société complètement en l'air.
L'homme n'est méchant ou bon ?
Ah, il est méchant. Il est méchant. C'est l'éducation qui le rend meilleur. Alors, il faut être fou comme Rousseau. Et ceux qui l'ont pensé, Robespierre notamment, qui sont les plus grands massacreurs, pour penser que l'homme naît bon. L'homme naît avec le péché originel. Alors, péché originel, qu'est-ce que c'est? On en reparlera une autre fois, on fera une conférence, une interview d'une heure sur le péché originel. Mais l'homme naît donc marqué par une succession de mauvais instincts, et l'éducation, la force, l'éducation parentale, l'éducation sans parents, l'éducation scolaire, l'éducation militaire, essaye d'épurer ces mauvais instincts pour faire de l'homme quelqu'un tourné vers les choses éternelles.
Donc, l'utilité de l'éducation.
Ah, au total, c'est fondamental. Sans éducation, on ne peut rien faire. J'ai passé ma vie d'ailleurs à enseigner, non pas comme professeur, titulaire de chaire, mais dans l'Institut de formation des avocats, et j'ai éprouvé des émerveillements. Et passer son savoir à quelqu'un, c'est quelque chose de grisant.
André Damien, vous êtes donc devant les micros de l'émission Parcours dans les programmes de Canal Académie, la radio de l'Académie des sciences morales et politiques. André Damien, vous qui avez travaillé pour la justice tout au long de votre vie, y a-t-il une justice immanente à celle des hommes ?
Alors, tout dépend si on pense à la survie de l'âme humaine. Vous savez que les Sadducéens n'y croyaient pas. Une fois que l'homme était mort, il était complètement mort. Donc là, il n'y a pas de justice immanente. Les pharisiens croyaient au contraire à la survie de l'âme. Et là, il faut bien qu'on en fasse quelque chose. Alors on l'envoyait au Shéol, qui était un lieu, non pas nécessairement de souffrance, mais un lieu de séparation de Dieu, d'où, d'après la tradition, d'après la théologie chrétienne, le Christ est venu les ressusciter par sa mort. Alors aujourd'hui, il y a l'enfer et le paradis qui sont dans la justice immanente.
Vous, votre conviction ?
C'est que
votre intuition ?
Mon intuition, c'est qu'il ne doit pas y avoir un grand monde en enfer parce que devant la vision de Dieu, il est difficile de ne pas se convertir. Alors en revanche, qu'il y ait une purification nécessaire, c'est ce que les chrétiens accepte avec une notion de plus en plus discutée qui est le purgatoire, qui n'est pas du tout un lieu de torture avec des diablotins qui plantent des fers rouges dans les fesses des occupants de ce lieu. C'est simplement la séparation provisoire du face-à-face avec Dieu qui est notre seule destinée et notre seul bien espéré et rêvé. Alors, tout dépend de la foi que l'on a, mais je pense qu'il y a une justice immanente. En tout cas, la plupart des gens ont cette idée vague et confuse que ça se réglera un jour. Il y aura une note à payer. Alors, dans tous les pays où on croit à la réincarnation, là, c'est très simple. La réincarnation vous permet d'espérer que dans une mauvaise réincarnation, il va souffrir en attendant une meilleure. Mais dans tous les pays où il n'y a pas de réincarnation admise, il faut penser à un jugement. C'est assez humain, mais des textes des Écritures sont des Écritures juives, hébraïques, et notamment chez les pharisiens, et puis les Écritures chrétiennes sont assez nettes sur nécessité d'un jugement.
Vous terminez le secret nécessaire par ces quelques mots, par ces lignes. Dans l'histoire de l'humanité, cette petite flamme d'Antigone, qui semble n'avoir été qu'un accident de parcours, brûle depuis 2300 ans. Arriverons-nous à la préserver ? C'est en tout cas en prenant conscience de sa nécessité, de sa fragilité, que nous pourrons, comme le faisaient symboliquement les Vestales dans la Rome antique, entretenir ce feu sacré nécessaire à la vie de l'homme en société. Donc là, vous activez une sonnette d'alarme.
Oui, parce que je pense, n'est-ce pas, que la bestialité est tout proche de l'humanité. Il n'y a qu'à penser, puisque nous sommes au 60e anniversaire au camp de concentration, on n'aurait pas pu penser que c'était normal. Et c'est pourquoi, quand on reproche aujourd'hui à des tas de Français n'y avoir pas cru, mais que ce n'était pas crédible, ce n'était pas pensable. Il fallait que des gens nous les rapportaient pour que nous en voyions l'horreur et la cruauté. Je dois dire, pour avoir connu pas mal de familles de déportés qui ne savaient pas, qui ne croyaient pas, qui ne craignaient pas que ce soit aussi atroce. Ils pensaient à des camps de répression, dur, sévère, mais on ne pensait pas à la solution finale ou à des choses semblables, surtout à des gens qui n'avaient même pas commis le crime, entre guillemets, de résister à l'occupant, mais qui avaient simplement une appartenance raciale qui ne plaisait pas à certains dirigeants de ces pays. Donc c'est là où on s'aperçoit que la bête est très près de l'homme et que celui qui veut trop faire l'ange finit par faire la bête. Alors, je pense que, effectivement, cette flamme, elle est à préserver. Parce qu'il suffit d'un grand souffle, un peu comme une bombe atomique, puis tout s'éteint et c'est fini. Donc il faut la préserver en étant attentif. Il faut que de nos doigts, nous empêchions les grandes flammes de venir éteindre ce feu léger. C'est un peu le travail que faisaient les Vestales. Et si elles laissaient éteindre le feu sacré, elles étaient enterrées vivantes. Je pense qu'effectivement, lorsque le feu sacré s'éteint, les plus graves peines doivent être encourues.
Alors vous faites la différenciation justement par rapport à ce secret nécessaire entre l'État, la société libérale et la société totalitaire.
Oui. Alors dans la société libérale, mais il ne faut pas la pousser jusqu'à l'absurde, dans la société libérale, chacun a le droit à son secret. Et je dirais chacun pour soi. Il ne faut pas aller jusqu'à l'absurde, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus de solidarité humaine, il n'y a plus de déclaration d'impôt, il n'y a plus de service militaire, il n'y a plus rien, etc. Il n'y a même plus d'obligation d'aller à l'école ou d'instruire ses enfants. D'ailleurs, il n'y en a pas. Vous avez le droit d'instruire vos enfants chez vous, tranquillement. Et à côté de ça, dans l'État totalitaire, tout est public. Et ça, c'est très nettement... L'État communiste, n'est-ce pas? L'État stalinien, c'est ça. Tout est public et l'enfant dénonce son père, etc. Vous avez, en quelque sorte, une prostitution de la vie privée qui n'existe plus et qui crée un malaise permanent, une sorte d'inquiétude. On ne sait pas toujours par qui on va être trahi, mais on sait qu'on sera trahi. L'atmosphère de confiance dans laquelle nous vivons, cette atmosphère qui permet de dire un peu ce qu'on veut, cette atmosphère qui permet de dire au téléphone des bêtises, des plaisanteries ou des choses sérieuses, est acceptable dans la mesure où nous savons qu'il y a un secret téléphonique qui est entretenu fort bien par les PTT et qui ne cède que sous une ordonnance d'un juge d'instruction, c'est-à-dire qu'il y a un homme qui a qualité pour la prendre. Et quand on découvre des abus, comme les fuites de l'Élysée, même si on peut comprendre les inquiétudes de celui qui les a ordonnées, il n'empêche qu'elles sont quand même inquiétantes pour nous tous.
Alors vous évoquez les droits de l'homme, les immortels principes, ensuite la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui protège ce secret.
Alors en réalité, il faut bien quelqu'un qui les protège, c'est le magistrat, qui le protège par voie de sanction, ce qui n'est pas exceptionnel, n'est-ce pas? Mais, et c'est pourquoi le principe des écoutes téléphoniques sera condamné, le principe. Qu'il y ait des circonstances plus qu'atténuantes, je le veux bien. Il y a l'ordre, et puis il y a les raisons, les craintes, qu'à tort ou à raison, pouvait entretenir celui qui, dont la famille pouvait être concernée. Mais je pense que ce secret est acquis, il est protégé par le juge. Alors par le juge judiciaire, par le juge administratif, qui sont deux catégories de juges bien différentes, mais toutes les deux attelées à la même charrette, ou à la même charrue, et c'est ça qui fait que on peut faire respecter ce secret par la voie de la coercition, pour ceux qui ne le respecteraient pas.
Donc, trouver l'équilibre entre les droits de la conscience et la vie de l'individu, et puis la société et l'État.
La réglette dont je parlais, sur le maître ou sur la balance. Vous savez, la balance des pharmaciens d'autrefois. On bougeait la réglette et on savait quel était son poids exact. C'est la réglette. Si elle est tantôt trop à droite, tantôt trop à gauche. Pas de libéralisme absolu, mais pas non plus, surtout, de disparition du secret. Or, le secret en prend de sacrés coups. Pas trop le secret de la confession, soyons honnêtes. J'ai écrit quelques articles sur ce point. Il n'est pas en grand danger. L'affaire de Bayeux qu'on a monté en épingle n'était pas un secret confié. C'était simplement quelque chose qui avait été dit à quelqu'un qui aurait dû ou qui aurait pu le répéter. Ce n'est pas un secret confié. Le secret des avocats devant le fisc, ils font. Le secret des médecins, ils font devant tout. Il y a quand même 40 et quelques maladies sous bien déclaration obligatoire, parmi lesquelles la scarlatine. Si vous ne faites pas une déclaration que vos enfants ont eu la scarlatine, c'est le médecin. Il y a encore des pénalités. Je veux bien, car c'est des maladies contagieuses. En revanche, le sida n'est pas sous bien déclaration.
André Damien, merci d'avoir passé cette heure en compagnie des auditeurs de Canal Académie dans cette émission Parcours. Merci André Damien.